Vous êtes sur RTL.
RTL dimanche soir, Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans RTL Soir, 1h15 pour tout savoir de l'actualité de ce dimanche 25 septembre avec d'abord votre premier journal et à la une ce soir, l'extrême droite qui se voit déjà au pouvoir en Italie en cette journée d'élection législative qui s'annonce historique. Sur place, de nombreuses files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote. La participation, c'est l'un des enjeux de ce scrutin. On verra ça avec notre correspondant qui nous attend sur place à Rome. Julien Bayou poussé à la démission par Yannick Jadot. L'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI estime que sa mise en retrait doit être accélérée pour son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, alors que l'ex-compagne de Julien Bayou a saisi la cellule interne du parti pour dénoncer son comportement violent. Dans ce journal également, les données personnelles des patients de l'hôpital de Corbeil-Essonnes publiées sur internet par des pirates qui réclament une rançon. On va tenter d'y voir un peu plus clair avec l'expert en cybersécurité Damien Bancal qui sera notre invité. La colère et l'inquiétude à Nantes où une femme a été violée par plusieurs hommes en pleine rue à la sortie d'une boîte de nuit. La conductrice du car de Mias toujours hospitalisée après son infarctus alors que le procès est censé reprendre demain à Marseille. Le football et les Bleus qui se préparent pour leur dernier match ce soir face au Danemark. Dernier match évidemment avant le Mondial au Qatar. Et puis on reviendra sur la soirée rocambolesque de Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Poulidor venu en Australie pour les championnats du monde de cyclisme. Il a passé la nuit au commissariat. Le quintet à Vincennes, il fallait jouer le 2, le 6, le 9, le 4, l'As et le 3 sont arrivés ex aequo. À 18h30, le MacPol. Et puis à 7h10, Alain Bougrain-Dubourg. On va refaire la planète avec notamment une astuce pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Soyez au rendez-vous. Et puis la météo. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Alors demain, c'est le retour du mauvais temps.
Oui, on a une dégradation pluvieuse bien salée celle-ci hein, qui va traverser le pays dans les prochaines 24 heures. Demain matin, on la retrouvera sur le nord-ouest avec des pluies soutenues, des vents forts. Dégradation qui s'étendra des Pays de Loire au bassin parisien et à la Lorraine dans l'après-midi. De part et d'autre, on peut espérer un petit peu de soleil entrecoupé d'averses, sauf près de la Méditerranée où là il fera un temps magnifique évidemment toute la journée. Les températures de leur côté vont commencer à baisser, figurez-vous. 4 à 16 degrés au réveil entre Aurillac et Nice avec 6 degrés à 3, 8 à Saint-Etienne, 11 à Paris. Dans l'après-midi, petite fourchette de 14 à 25 degrés, 15 seulement à Paris, à Metz ou encore à Annecy, 17 à Cherbourg, 19 degrés à Lyon, 20 degrés à Toulouse, encore 21 pour Marseille et 25 à Bastia.
Ça se rafraîchit et ça va continuer pour la semaine.
Ouais, on va avoir des températures franchement désagréables cette semaine. On va pas aimer ça du tout. 15-16 degrés sur la moitié nord de moyenne jusqu'à vendredi inclus. 18 à 20 pour la moitié sud. Disons à partir de vendredi, les températures pourraient remonter. Mais on va pas avoir un temps fameux. En même temps, il faut de la pluie. Et ben, on va en avoir. Voilà, un petit peu tous les jours.
Voilà l'automne qui arrive. Mais vous êtes bien, vous êtes au chaud. Merci d'écouter RTL.
RTL dimanche soir. Alexandre de Saint-Aignan.
Sauf surprise, c'est l'extrême droite qui devrait l'emporter ce soir en Italie. Plus de 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes jusqu'à 23 heures pour élire leur parlement. Il devrait donc y avoir un changement de gouvernement et à sa tête, la grande favorite, c'est Giorgia Meloni, 45 ans, la chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia. On retrouve sur place à Rome le correspondant de RTL. Bonsoir Olivier Bonnel. Olivier Bonnel.
Bonsoir Alexandre.
Chose étrange, la favorite de l'élection, la potentielle future première ministre, Giorgia Meloni, n'est toujours pas allée voter.
Oui, tous les principaux candidats, eux, ont déjà voté. Silvio Berlusconi à Milan, Enrico Letta, le leader du centre-gauche, et Giuseppe Conte, patron du mouvement 5 étoiles à Rome. Tous donc, sauf une, Giorgia Meloni, la grande favorite des sondages. Elle devait se rendre à la mi-journée dans un bureau de vote au sud-ouest de la capitale, mais il y avait trop de journalistes devant la cohue. Elle a décidé de reporter son vote tard ce soir, sans doute vers 22h, une heure avant la fermeture des bureaux de vote. C'est dire un peu l'attente que suscite la chef du parti Fratelli d'Italia. Alors pour l'instant, il est un peu tôt pour avoir des tendances fermes sur le déroulé de ce scrutin. Le seul chiffre dévoilé, c'est le taux de participation à midi, stable par rapport à il y a 4 ans, autour de 19%. Prochaine estimation plus précise, ça sera tout à l'heure à 19h. Un enseignement cependant sur la dynamique de vote selon la géographie. On a moins voté jusqu'ici dans les régions du sud que dans celles du nord de l'Italie.
Voilà les explications d'Olivier Bonnel à Rome pour RTL. Les premiers résultats, en tout cas les premières estimations sont attendues à partir de 23h pour les résultats résultat officiel. Là, il faudra patienter en revanche jusqu'à demain matin. Julien Bayou, de plus en plus poussé vers la sortie. Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts est accusé de violence par une ex-compagne. Il avait déjà été suspendu mardi de ses fonctions de coprésident du groupe à l'Assemblée nationale. Et tout à l'heure sur RTL, l'ancien candidat écologiste Yannick Jadot a réclamé que Julien Bayou soit également mis en retrait du secrétariat national. Yannick Jadot, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, qui a par ailleurs critiqué la manière dont la France insoumise a traité le cas d'Adrien Quatennens, mis en retrait après avoir reconnu qu'il avait frappé sa femme.
Écoutez, la France insoumise gère leur situation, leurs affaires, je trouve, de mauvaise manière. Écoutez, vous avez un certain nombre de dirigeants qui ont plutôt joué la solidarité masculine, voire viriliste, que la protection des femmes. C'est une erreur politique au moment où la société doit basculer.
Donc vous parlez de Jean-Luc Mélenchon qui a commis, donc selon vous, une erreur politique en minimisant.
Bien sûr, il a commis une erreur politique. L'expression de Jean-Luc Mélenchon n'aide pas au combat contre les violences sexistes et sexuelles pour l'égalité des femmes et des hommes.
Yannick Jadot, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. On va revenir évidemment sur ses propos tout à l'heure avec les débatteurs du grand jury qui seront de retour avec nous. Ce sera dans le MacPol à partir de 18h30. On en vient à cette fuite massive de données particulièrement sensibles. Des pirates ont mis leurs menaces à exécution en diffusant des informations volées au centre hospitalier de Corbeil-Essonne. Plus de 11 gigaoctets, peut-être des centaines de milliers de documents et dans le lot potentiellement certaines données confidentielles des patients qui ont fréquenté cet hôpital, Zoé Pallier.
Oui, comme des numéros de sécurité sociale ou encore les comptes rendus d'examens médicaux de certains patients. Les pirates les ont publiés sur leur site vendredi, date de l'ultimatum qu'ils avaient fixé pour recevoir une rançon d'$1 million. Le délai a expiré. Cette fuite n'est donc pas surprenante, estime Bruno Piriou. Il est maire de Corbeil-Essonne et membre du conseil de surveillance de l'hôpital. Dès les premières menaces, la direction a prévenu les patients.
1 million de personnes potentiellement concernées, c'est énorme, plus les personnels. Donc il y a un système, un travail considérable de la direction de l'hôpital et des personnels pour informer tout le monde, préparer des lettres de plainte pour essayer de donner les moyens aux victimes potentielles de se défendre.
Informer donc et mettre en garde aussi contre les attaques ciblées, parce que ces données personnelles sont désormais accessibles sur le dark web, c'est-à-dire que n'importe quel pirate informatique peut les voler et les réutiliser pour gagner la confiance des victimes, les leurrer et in fine mener des actes de malveillance par mail ou par SMS.
Oui, des données particulièrement sensibles. Merci Zoé Pallier pour RTL. Et pour aller plus loin, on est en ligne avec Damien Banca, l'expert en cybersécurité, rédacteur en chef du site Zatas.com. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est vous qui avez révélé cette information inquiétante. D'abord, est-ce qu'on a une idée de qui sont ces pirates ?
Alors, on a une petite idée parce que d'abord, eux l'ont même annoncé il y a quelques mois, expliquant qu'ils étaient dans les environs des pays de l'Est. Je vais être très honnête avec vous, c'est des pirates qui parlent aussi énormément pour donner des situations géographiques assez hétéroclites, on va dire. On a eu le droit à du Canada, on a eu le droit à des Pays-Bas. Donc, en fait, il est assez compliqué véritablement de les cibler. Et pour la bonne aussi raison, c'est que on sait qu'il y a un grand chef, ça c'est certain. Et lui-même l'a dit il y a quelques semaines dans une interview où ils sont une centaine. Il a une centaine de petites mains qui agissent pour lui. Et là, c'est très compliqué parce qu'ils peuvent être aussi bien français que suisse, que belge, que canadien, chinois. Enfin bref, c'est malheureusement devenu une véritable entreprise. Et ça, c'est terrible.
C'est plutôt des opportunistes, c'est plutôt des États qui sont derrière ces pirates ?
Non, là, en tout cas, moi, ce que j'en vois, on a surtout affaire à des opportunistes. Mmh. C'est vraiment ce qu'on pourra dire, l'occasion qui fait le larron. On a, comme je l'explique assez souvent, c'est un bateau de pêche, en fait, ces pirates informatiques. Et ils lancent leur filet. Et dans ce filet, tout ce qui tombera, tous les poissons, petits ou gros, tombant dans leur filet, eh bien, serviront à un moment ou à un autre de victimes. Et ils iront leur voler leurs informations d'abord, et puis ensuite les rançonner. Soit pour rendre les données, soit pour éviter qu'elles soient diffusées.
Oui, là, on a eu une première fuite de données. Est-ce que ça va continuer ? On risque d'en avoir d'autres ?
Ah, c'est le gros problème parce que déjà, ce groupe de pirates est vraiment spécialisé dans le sujet depuis plusieurs années. Et c'est aussi un moyen de faire levier. Je m'explique. Là, ils ont diffusé Un paquet qu'ils ont appelé en plus partie 1. Alors ça veut dire qu'ils ont peut-être partie 2, partie 3. En fait, on ne sait pas combien encore ils ont véritablement en main. Mais là, leur but n'est plus de recevoir de l'argent. Ils ont, je pense, bien compris qu'ils en auront pas. Non, mais ça permet de faire plier les autres entreprises qu'ils ont pu prendre en chantage. Il faut savoir que depuis l'attaque de Corbeil-Essonnes, ils ont plus de 150 nouvelles victimes, quand même, hein, sur toute la planète. Donc c'est le meilleur moyen de les faire plier. Regardez, si vous ne nous payez pas, voilà ce qu'on est capable de faire, même pour un centre hospitalier.
Oui, donc là, aujourd'hui, si l'hôpital de Corbeil-Essonnes paye la rançon, ça va rien changer ?
Non seulement il faut surtout pas payer, ça paraît impensable, hein, et dans tous les cas l'ANSSI, hein, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, ne cesse de le dire. Et puis même si on payait aujourd'hui, ils ont volé les informations. On a la preuve qu'ils les trient, ces informations. On a la preuve en plus qu'ils ont commencé à en diffuser. Donc c'est clairement faire confiance au diable, ça, il en est hors de question. Et donc là, oui, non, c'est malheureusement perdu maintenant.
On sait ce qu'il y a parmi ces données confidentielles ?
Alors, il y a les informations que le centre hospitalier a expliquées, hein. Moi, j'en dirai pas plus parce que c'est à eux de le dire et dans tous les cas de gérer comme c'est parfaitement fait là en ce moment. Mais en tout cas, il y a tout ce que des pirates informatiques sont capables de voler une fois qu'ils sont rentrés, eh bien, dans l'espace numérique qui les sauvegarde, hein. Imaginez votre ordinateur, imaginez ce qu'il y a dans votre ordinateur, eh bien, imaginez un ordinateur qui rentre dans cette machine et avec quoi il va partir.
Oui, mais attendez, là on parle pas d'un ordinateur personnel, on parle d'un hôpital. Comment ça se fait que les données comme ça des patients ne soient pas mieux sécurisées?
Alors on sait qu'il y a de la sécurisation, on sait en plus qu'on a affaire aujourd'hui à beaucoup d'informaticiens, beaucoup de responsables informatiques dans les centres hospitaliers, qui sont un, des passionnés, et deux, des vrais professionnels. Sauf que en face, on a des pirates informatiques qui font ça 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc, une fois qu'ils ont trouvé la petite porte d'entrée, ils vont malheureusement, ils vont se promener. C'est le petit grain de sable dans un beau rouage. Et le problème, c'est qu'on sait très bien qu'en informatique, la cybersécurité et la sécurité à 100% n'existera jamais. C'est l'occasion qu'a fait le larron. Ils sont rentrés, ils ont pu se promener.
On peut faire quelque chose pour mieux sécuriser les hôpitaux ?
Alors en tout cas, on peut faire tout le monde, on peut vraiment agir. C'est d'abord s'informer. S'éduquer, hein, donc de la formation. Ensuite, pour nos centres hospitaliers, on sait qu'il peut y avoir un petit peu plus d'argent quand même, ça pourrait être pas négligeable pour des gens qui en ont besoin. Et je pense aussi écouter les informaticiens ou en tout cas les responsables informatiques dans ce genre de lieu qui, effectivement, ça a un coût, je suis tout à fait d'accord, mais il y a un moment quand ils expliquent qu'aux médecins, hein, pour avoir eu des cas très précis, où vous recevez des mails personnels sur votre ordinateur professionnel, évitez parce que vous ne savez pas véritablement qui est derrière.
Ça fait plusieurs années maintenant, hein, qu'on entend ce genre d'histoire de piratage, alors d'entreprises ou d'hôpitaux. Est-ce que ça va s'arrêter un jour ou au contraire, est-ce qu'il faut s'attendre à en voir de plus en plus ?
Alors, je veux vraiment pas être pessimiste, hein, mais moi, ça fait 30 ans que je traite ce genre de sujet. Ça s'accentue. Pourquoi ? Parce que, y a de plus en plus d'argent quand on voit des groupes comme celui-ci, hein, Logbit 3.0, où on peut présumer que ce sont plusieurs millions de dollars, hein, qu'ils peuvent gagner par ce genre de rançonnage, qu'ils emploient à droite, à gauche des internautes qui trouvent facilement aussi de quoi gagner de l'argent. Et nos données. Nos données aujourd'hui, quelles qu'elles soient, ces informations, elle rapporte de l'argent à ces pirates. Pourquoi s'arrêterait-il ? Donc c'est à nous aussi de leur mettre un maximum de bâtons dans les roues.
Et ben voilà, merci beaucoup pour vos explications précieuses. Damien Bancal, je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité et rédacteur en chef du site zatas.com. Allez, dans un instant, l'indignation à Nantes, où une femme a été victime d'un viol collectif en pleine rue.
RTL Dimanche. 18h-19h15, RTL Dimanche Soir. Alexandre de Saint-Aignan.
Eh oui, c'est RTL que vous écoutez. Il est 18h14 et on en vient à cette histoire sordide. Trois suspects ont été interpellés à Nantes, accusés d'avoir frappé, violé une femme de 40 ans. Les faits se sont produits tôt, samedi matin. Nicolas Bobby, ça s'est passé en pleine rue.
Trois ressortissants soudanais, demandeurs d'asile en état d'ébriété, ont tout d'abord insulté la jeune femme de 40 ans qui sortait de boîte de nuit, puis dérobé son porte-monnaie, son téléphone. Deux d'entre eux auraient commis ensuite l'irréparable. Bruno Gallet du syndicat Alliance Police Nationale.
Deux individus se sont immédiatement jetés sur elle, lui ont porté un coup de poing, ce qui a pour effet de la faire tomber au sol. Et deux d'entre eux se sont précipités, se sont jetés sur elle pour lui arracher ses vêtements et tenter de la violer, et a visiblement la violer.
dérangés par des passants, ils ont pris la fuite. Lors de l'interpellation, un policier a été blessé. De nuit, ce quartier, proche du célèbre éléphant de Nantes, est parfois dangereux. Christelle en a fait la meilleure expérience.
Je me suis fait agresser. J'ai un chien, donc j'ai eu la chance que mon chien me défende. Des jeunes qui m'ont agressé pour me voler. Mais ça aurait pu mal tourner pour moi. Et on retrouve régulièrement des sacs à main balancés dans les buissons, etc. Donc, il se passe beaucoup de choses la nuit ici.
Le procureur de la République de Nantes devrait communiquer sur ce viol collectif dans la journée.
Nicolas Bobby à Nantes pour RTL. Les trois suspects seront présentés demain au parquet. Près de Bayonne à présent, 5 policiers ont été légèrement blessés la nuit dernière lors d'un refus d'obtempérer. Les policiers qui tentaient de mettre fin à un rodéo urbain. Ils ont tenté de contrôler l'un des chauffards qui s'est enfui. Son véhicule a été retrouvé un peu plus tard. Il s'agissait d'une voiture volée. Récit à retrouver dans le prochain journal à 19h sur RTL. À Marseille à présent, le procès de l'accident du car scolaire de Millas est censé reprendre demain, mais la conductrice a fait un infarctus en pleine audience jeudi après-midi lors de son interrogatoire. Hugo Hamelin, vous êtes en direct devant l'hôpital Nord de Marseille où Nadine Oliveira est ce soir toujours hospitalisée.
Oui, c'est ça, hospitalisée en soins intensifs au service de cardiologie au 10e étage du bâtiment, service où elle a été admise il y a 3 jours, dès jeudi soir, après une nouvelle audience éprouvante. Nadine Oliveira doit encore passer des examens médicaux ce dimanche, selon sa maman qui s'est exprimée auprès de nos confrères du quotidien L'Indépendant cet après-midi. La suite du procès de l'accident de car de Millas est donc incertaine, puisque selon les avocats de la conductrice, c'est l'insistance des interrogatoires qui a provoqué l'accident cardiaque de leur cliente, que l'on imagine très mal sur le banc des prévenus dès demain matin pour l'ouverture du 5e jour de ce procès qui devait normalement se poursuivre jusqu'au 7 octobre.
Hugo Hamelin, Marseille pour RTL. Un incendie impressionnant. Aujourd'hui, en région parisienne, un épais nuage de fumée noire dans le ciel au-dessus du célèbre marché de Rungis. Un entrepôt a été détruit. La situation est sous contrôle. Selon les pompiers, il n'y a aucun blessé, aucun disparu. En Suisse, les femmes vont désormais devoir travailler 1 an de plus. C'est le résultat d'un référendum à 51%. Les Suisses ont dit oui à l'allongement de l'âge de départ à la retraite pour les femmes à 65 ans. Donc, c'était déjà le cas pour les hommes. Et puis, au cours de ce même référendum, nos voisins ont en revanche refusé d'interdire l'élevage intensif. Ils ont voté à 63% contre cette interdiction. Une conséquence inattendue de la météo estivale cet été. Sécheresse et surtout la chaleur qui ne fait pas du tout les affaires des producteurs de choucroute. La récolte s'annonce particulièrement mauvaise cette année. Vous êtes allé le constater en Alsace, Yannick Collant.
Vous voyez, là, c'est un chou qui est un peu plus petit. Du coup, ça, c'est effectivement la particularité d'une année qui est chaude.
Sébastien Muller dirige la choucrouterie Le Pic à Maestratzheim. À l'arrivée des tracteurs, il vérifie la qualité des choux. Et cette année, la récolte a souffert de la sécheresse.
La saison ne sera pas la meilleure. On est environ à moins 25% de volume. Nous, le chou, à partir du moment où il fait plus de 30 degrés, il y a un stress hydrique qui se fait sur le chou, stress hydrique, c'est-à-dire qu'il arrête de pousser, voire il se referme sur lui-même, qui devient plus petit au final.
Et des choux à choucroute plus petits, cela peut même menacer certains producteurs pour avoir l'IGP, l'indication géographique protégée choucroute d'Alsace.
Aujourd'hui, pour faire de la choucroute d'Alsace IGP, en général, on a un chou qui doit faire 3 kg au minimum. On est plutôt autour de ce poids-là, 3 kg, 3,5 kg, alors que d'habitude, on est peut-être plus à 5 kg. On arrivera à faire de la choucroute d'Alsace IGP, mais on est effectivement proche de la limite.
Les choucroutiers alsaciens qui espèrent en tout cas rattraper une partie de leur retard grâce aux autres variétés de choux plus tardives qui ont moins souffert de la canicule.
Yannick Collant pour RTL et noter que cette mauvaise récolte n'a pas gâché la fête ce week-end en Alsace. C'était la fête de la choucroute à Krauter-Gersheim. C'est là d'où viennent 60% de la production française de choucroute. Allez, dans un instant, on va parler de toute autre chose. On va parler football. Danemark-France au programme de la soirée. C'est le dernier match des Bleus avant la Coupe du Monde.
Alexandre de Saint-Aignan. RTL Soirée. 18h-19h15, RTL Dimanche Soir.
Alexandre de Saint-Aignan.
Et il y a du foot ce soir, c'est l'équipe de France qui chausse les crampons pour le dernier match avant le Mondial au Qatar. Les Bleus affrontent le Danemark, on est à 2h30 à peu près hein, du coup d'envoi. Bonsoir Nicolas Georgerot.
Bonsoir.
Vous êtes à Copenhague pour RTL, alors on va vivre ensemble cette rencontre Danemark-France, évidemment sur RTL. Ce soir c'est un match de la Ligue des Nations, mais le véritable enjeu pour les Bleus, évidemment, c'est de régler les derniers détails avant la Coupe du Monde.
Bah oui, la relégation éventuelle en deuxième division de la Ligue des Nations, ce n'est pas cela qui hante les esprits tricolores, c'est vrai. Dans deux mois, les Bleus seront sur les pelouses de Doha, loin des 13 degrés de la capitale danoise aujourd'hui. Et pour le Mondial, il y a du temps, mais c'est déjà demain, indique le défenseur Raphaël Varane.
Je ne vais pas vous dire quelque chose que je ne pense pas. Pour moi, l'objectif, c'est de se préparer. C'est clair, il n'y aura pas de match amicaux avant. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc chaque moment qu'on passe ensemble, c'est important pour nous. Ça compte pour l'objectif Coupe du Monde.
Un Danemark qui sera sur le chemin de Didier Deschamps et des champions du monde lors de la phase de groupe. Le sélectionneur veut voir son équipe montrer du caractère ce soir.
On est là dans un objectif de performance face à une équipe danoise qui joue à domicile avec toute son énergie, l'agressivité qu'il y met. Évidemment, il faut s'attendre à un match engagé.
Car les Danois, demi-finalistes de l'Euro et ambitieux, peuvent de leur côté toujours accrocher cette phase finale de la Ligue des Nations et essayer de remporter cette épreuve comme les Français l'avaient réalisé il y a un an.
Nicolas Georgerot pour RTL à Copenhague, Danemark, France. C'est à suivre évidemment sur RTL ce soir à partir de 20h dans RTL Foot. À suivre également ce soir le top 14. Quatrième journée, c'est du rugby avec l'affrontement entre Clermont et La Rochelle. Coup d'envoi 21h05. En cyclisme, la nuit dernière en Australie, les championnats du monde sur route. Et c'est le prodige belge de 22 ans, Remco Evenepoel, qui s'est imposé. Une performance écrasante, saluée par son compatriote, souvent considéré comme le plus grand cycliste de l'histoire. Histoire, Eddy Merckx.
C'est super ce qu'il a fait, hein. C'est incroyable. C'est la saison qu'il fait, c'est vraiment un aboutissement d'un grand champion. Je ne suis pas étonné quand on voit les progrès qu'il a fait des années, c'est incroyable. Je pense à 22 ans, il commence seulement sa carrière, hein. C'est une grande fierté pour la Belgique.
Eddy Merckx, entretien RTL signé Nicolas Georgerot. A noter quand même que lors de ces championnats du monde de cyclisme, c'est le Français Christophe Laporte qui a pris la deuxième place. Mais c'est l'histoire d'un autre participant à cette course qui attire également notre attention ce soir, celle du petit-fils de Raymond Poulidor, Mathieu Van Der Poel. Le champion néerlandais faisait partie des favoris pour ces championnats du monde. Mais il a rapidement jeté l'éponge après avoir passé la nuit au poste de police, Arthur Pereira.
Oui, le quadruple champion du monde de cyclo-cross a tout simplement déraillé la nuit dernière au lit dès 21h. Il ne trouve pas le sommeil, raconte Christopher Rudolph, son directeur sportif, à nos confrères de la RTBF.
À minuit, il y avait encore toujours des enfants dans l'hôtel. Il y avait beaucoup de bruit. Il a sorti sa chambre.
S'ensuit un échange houleux avec deux adolescentes de 13 et 14 ans. Le cycliste en vient aux mains, projette l'une des deux jeunes filles au sol et l'autre contre le mur. Il l'aurait blessée au bras. Et c'est à ce moment-là que la direction de l'hôtel appelle la police. L'homme de 27 ans est alors transporté vers le commissariat où il passe une partie de la nuit avant de finalement revenir vers 4h du matin à sa chambre.
Naturellement, il ne pouvait plus dormir. À 7, il devait manger pour prendre le départ. Mentalement, il était en deux pièces.
3 heures de sommeil, le coureur néerlandais abandonne au bout de 30 km de course. Épuisé, lui qui était venu pour décrocher le maillot arc-en-ciel, il est finalement inculpé pour 2 cas d'agression. Mathieu Van Der Poel devra comparaître mardi devant le tribunal de Sydney pour répondre de cette sortie de route.
Le récit d'Arthur Pereira pour RTL. Un titre de champion du monde remporté par 2 Français cet après-midi en aviron, Hugo Boucheron et Mathieu Androdias, les 2 athlètes déjà médaillés d'or lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Les voilà désormais sur le toit du monde. C'est de bon augure, évidemment, à 2 ans des JO de Paris 2024. Ils seront les invités tout à l'heure dont refait le sport avec Isabelle Langer. Notez qu'en MotoGP ce matin, c'est l'Australien Jack Miller qui a remporté le Grand Prix du Japon. Le Français Fabio Quartararo est arrivé 8e, mais il conserve sa place de leader au championnat, profitant notamment de la chute de son rival, l'Italien Francesco Banea. Dans un instant, le magazine politique de la rédaction de RTL, avec au sommaire la gauche empêtrée dans les affaires de violence, la réforme des retraites aussi évidemment, et puis l'extrême droite au pouvoir bientôt peut-être en Italie.
RTL dimanche soir. RTL dimanche soir. Le MacPaul. Alexandre de Saint-Aignan.
Le MacPaul, c'est le magazine politique de la rédaction de RTL, avec à la une ce soir Yannick Jadot qui montre la sortie à Julien Bayou, accusé de violence par son ex-compagne. Il serait bon qu'on accélère sa mise en retrait du secrétariat national du parti, c'est ce qu'a déclaré l'eurodéputé écologiste invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Au sujet de l'affaire Quatennens et de la réaction controversée de Jean-Luc Mélenchon, c'est une erreur politique, martèle Yannick Jadot, vous l'entendrez. La gauche en pleine tempête face aux accusations de violence sexiste qui touche certains de ses dirigeants, des affaires traitées en interne par les partis eux-mêmes. Est-ce véritablement une avancée ou une façon de cacher la poussière sous le tapis? On en discutera avec l'essayiste Caroline Forest qui sera notre invitée. On va évidemment parler aussi de la réforme des retraites. L'objectif a été fixé par Emmanuel Macron. Elle doit voir le jour d'ici l'été 2023. Le président et la première ministre qui vont réunir la majorité cette semaine pour se mettre d'accord sur le calendrier. Et puis comment parler de l'actualité politique sans faire un détour par l'Italie ce soir où se joue un scrutin déterminant pour l'avenir du pays qui pourrait avoir à sa tête une nouvelle première ministre demain, Giorgia Meloni, issue d'un parti d'extrême droite. Marie Mollet, qui suit l'extrême droite française pour RTL, s'est rendue en Italie à la rencontre des partisans de Meloni pour tenter de nous donner quelques repères.
Alexandre de Saint-Aignan, le MacPol sur RTL.
Julien Bayou doit-il démissionner? Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts est accusé de violence par son ex-compagne. La cellule interne au parti enquête sur ces accusations depuis juillet. En attendant qu'elle rende ses conclusions, Julien Bayou s'est mis en retrait de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Mais pour Yannick Jadot, eurodéputé écologiste, ex-candidat à l'élection présidentielle et invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, il faut aller plus loin.
Pour la sérénité de l'enquête, du travail d'investigation qui est mené par la cellule que nous avons mis en place dès 2016. On est la première formation politique à l'avoir mise en place. Je pense qu'il est de bonne intelligence à la fois qu'il quitte ses fonctions de coprésident du groupe
ça c'est
à l'Assemblée nationale et qu'on accélère sa mise en retrait aussi du secrétariat national d'Europe Écologie Les Verts.
Et on en parle ce soir avec les quatre journalistes du grand jury. Amélie Carouer pour TF1 LCI, Marion Mourgue du Figaro, Marie-Pierre Haddad de RTL.fr et Olivier Bost, évidemment, pour RTL. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Vous avez entendu Yannick Jadot. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Bien qu'il y avait une clarté sur la question de Julien Bayou, et je pense qu'il est très clair sur le côté à envoyer un message fort, sujet concernant particulièrement à gauche. Après, quand on l'a interrogé sur la manière de réformer tout ça, parce que c'est dans la vie des partis qu'il y a un vrai débat et un vrai sujet là, qui est mis en lumière ces derniers temps, c'était un peu plus compliqué d'arriver au cœur de la question. Il a d'abord répondu sur des instances nationales, comment réformer ça au niveau, d'un point de vue national, ce qui n'est pas un non-sujet. Il lui a fallu un tout petit peu plus de temps, donc peut-être un peu plus de gêne pour venir au cœur du problème, c'est-à-dire comment on fait pour que dans les partis, il n'y ait pas une sorte de justice parallèle qui soit ouverte au vent des courants politiques et des amitiés éventuellement. Il a fini par y venir, mais on sent que c'est toujours un sujet compliqué en interne.
Oui, il prend la défense de ces cellules d'écoute pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, Olivier Bost. On n'a pas bien compris comment est-ce qu'il voulait en faire plus.
Alors oui, ça c'est sûr que c'était incompréhensible sur un parquet, sur une instance de justice qui finalement viendrait quelque part nettoyer tout ce qui peut se produire dans les partis politiques. C'était franchement flou, mais je pense que ça s'explique en fait. Yannick Jadot, il a pas d'ambiguïté sur le sujet, il se trompe pas de mot. Il est sincère dans sa démarche. En revanche, il est pas à l'aise. Il est pas à l'aise pour tout ce qui concerne aujourd'hui la gauche. Moi, c'est surtout ça que j'ai retenu, et c'est pour ça qu'effectivement, il part dans des idées qui semblent quand même assez vagues.
Alors là où Yannick Jadot a été moins vague, en revanche, c'est au sujet de Jean-Luc Mélenchon, en particulier sur la réaction du leader des Insoumis après son tweet de soutien à Adrien Quatennens, qui a reconnu avoir frappé sa femme.
Écoutez, la France Insoumise gère leur situation, leurs affaires, je trouve, de mauvaise manière. Écoutez, vous avez un certain nombre de dirigeants qui ont plutôt joué la solidarité masculine, voire viriliste, que la protection des femmes. C'est une erreur politique. Au moment où la société doit basculer, elle ne l'a pas encore fait. Ce type de signaux, ça envoie en fait l'idée que entre mecs, ça va bien se passer.
Donc vous parlez de Jean-Luc Mélenchon qui a commis, donc selon vous, une erreur politique en minimisant.
Oui, bien sûr.
La situation.
Bien sûr, il a commis une erreur politique. Il est évident que l'expression de Jean-Luc Mélenchon n'aide pas au combat contre les violences sexistes et sexuelles pour l'égalité des femmes et des hommes. Je ne confonds pas non plus la France insoumise et les déclarations de Jean-Luc Mélenchon par rapport à Adrien Quatennens. Je pense que la France insoumise est un parti féministe qui veut combattre sincèrement contre les violences faites aux femmes.
Marion Mourgue, vous avez entendu Yannick Jadot. On sent qu'il essaye de ne pas mettre Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise dans le même sac.
C'est vrai qu'on sent qu'il fait une distinction entre Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Il dit le parti, c'est un parti féministe, et donc on se dit qu'ils peuvent travailler ensemble. Mais avec Jean-Luc Mélenchon, on se dit qu'il y a quelque chose comme une page qui est en train de se tourner et que Yannick Jadot veut accélérer ce mouvement, encore une fois, sans le nommer.
Ce qui était vraiment étonnant, c'est que tout au long de ce grand jury, Yannick Jadot a envoyé des piques à Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y a des fois, Jean-Luc Mélenchon était concerné, comme d'autres, par certains sujets, mais ça revenait de manière récurrente. C'est-à-dire que, sur toute la question des violences aux femmes, très clairement, la gestion de Jean-Luc Mélenchon a été visée par Yannick Jadot. Sur la mobilisation pour les retraites, il n'est pas d'accord avec le fait de défiler sans les syndicats. Sur les questions européennes, bien entendu, là, il y a un fossé et un écart. Sur ses positions internationales, sur l'Ukraine, sur la Chine, Jean-Luc Mélenchon a été la cible directe ou indirecte de Yannick Jadot tout au long du grand jury. C'est aussi simple que ça.
Même sur sa position, sur la position des écologistes au sein de la NUPES, Marie-Pierre Haddad.
Il a joué un espèce d'entre-deux, voilà, en critiquant Jean-Luc Mélenchon, sans pour autant critiquer la NUPES. Des internautes lui ont demandé s'il fallait que les écologistes reprennent leur indépendance, et là, en fait, il dit non, il n'y a pas besoin, le système fonctionne tel qu'il est. Mais après, on arrive à la question des européennes, et en lui demandant est-ce qu'il faut une liste commune avec la NUPES, et là il retombe dans ça en même temps, en ne répondant pas vraiment à la question. Donc il est dans un entre-deux de accuser Jean-Luc Mélenchon sans froisser les autres membres avec qui il travaille, qui constituent le reste de la NUPES.
On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, ça n'a jamais été la grande amitié. Donc il n'y a pas de surprise face à face, et ça a parfois été effectivement assez direct. Mais à ce point direct, sans même qu'on l'interroge sur Jean-Luc Mélenchon, y retourner une fois, deux fois, trois fois, etc., il y a quelque chose qui se passe, et ça raconte quelque chose de plus profond quand même sur la gauche. Ils se sentent plus décomplexés, ceux qui ne sont pas forcément passionnés par Jean-Luc Mélenchon, ils se sentent plus décomplexés pour y aller, avec le sentiment, Marion le disait parfaitement, d'une page qui se tourne et qu'il y a peut-être moyen de l'accélérer. Et puis en plus, dans l'esprit, Jean-Luc Mélenchon, il n'a plus de mandat. Jean-Luc Mélenchon, il est là, mais il n'est pas là. Jean-Luc Mélenchon, c'est une instance à lui tout seul. Il est plus évanescent. Donc, peut-être moins difficile d'essayer de le corneriser, et peut-être donc, effectivement, une occasion à saisir.
La question aujourd'hui pour Jean-Luc Mélenchon, c'est avec les propos qu'il a eus, il se déconnecte d'une part importante de ce qui fait aujourd'hui la gauche, c'est-à-dire les mouvements féministes et des mouvements progressistes qui ne comprennent pas et qui même rejette désormais Jean-Luc Mélenchon. Et donc la question, c'est vraiment de son avenir au sein d'une gauche qu'il avait réussi à unir avec la NUPES. Et là, c'est la question de son avenir politique qui se pose.
Et qu'on parle d'Adrien Quatennens, en tout cas, ou de Julien Bayou, d'Éric Coquerel ou de Taha Bouafs, toutes ces personnalités politiques sont ou ont été accusées de violences sexistes ou sexuelles, et à chaque fois l'enquête a été gérée en interne. J'aimerais qu'on en parle avec Caroline Forest. Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, essayiste, réalisatrice. Les partis ont mis en place des cellules internes d'écoute pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Pourquoi ne pas aller voir directement la justice plutôt ?
D'abord, il y a quand même beaucoup de situations qui ne relèvent pas exactement de la loi, mais qui relèvent de quelque chose qui rend la vie impossible quand vous militez et que vous êtes femme. C'est un milieu qui est quand même très, très dur pour les femmes, où très facilement, elles sont objectivées, traitées comme des proies sexuelles par des camarades ou d'autres militants qui peuvent pratiquer une drague très, très lourde. Et je trouve plutôt sain que pour ces situations-là, on n'oblige pas non plus celles qui en sont victimes à aller au commissariat toutes les semaines. Qu'il y ait des commissions de gestion normale de ressources humaines et qu'on intègre la dimension antisexiste dans cette gestion des ressources humaines au sein des partis politiques, ça ne me choque pas. C'est quand, devant des faits graves, des faits qui relèvent de la loi, on traite en interne et dans une forme de grande discrétion parfois, pour éviter d'entacher l'image du parti, que là c'est un problème et que là on se substitue à la justice.
Pour l'instant, le résultat de ces cellules internes, c'est surtout des mises en retrait, pas des sanctions judiciaires, ça donne l'impression de petits arrangements. Est-ce que les cellules internes, elles sont vraiment crédibles ?
Il y a un problème surtout dans le décalage entre la morale que prône légitimement, oui parfois de façon assez maximale, la France Insoumise ou Europe Écologie Les Verts dans ces affaires. C'est-à-dire que moi je trouve ça formidable qu'ils se saisissent des violences sexuelles et sexistes. Mais si c'est pour avoir une immense morale pour les autres, demander une démission toutes les semaines dès qu'il s'agit de quelqu'un d'un autre parti, et considérer que le gérer en interne et se contenter d'un simple retrait lorsque cela vise son camp, c'est là que ça révèle une forme de surtout de cuisine très politique, plus que féministe.
Oui, on a le sentiment de voir des partis qui veulent, entre guillemets, laver leur linge sale en famille. Est-ce que le problème, c'est pas justement cette très grande proximité, ces rangs très resserrés au sein des partis, notamment quand on voit la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui a été très critiqué en interne quand il a soutenu Adrien Quatennens?
Oui, mais si vous voulez, là, Jean-Luc Mélenchon a pour ses amis forcément une réaction plus compréhensive qu'il n'en a pour ses adversaires politiques. C'est très humain et en même temps, c'est très cynique et ça se voit.
Ces cellules internes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, il y en a dans quasiment tous les partis. Même Bruno Retailleau s'est dit favorable cette semaine à la création d'une cellule d'écoute chez les Républicains. Pour l'instant, on entend surtout des affaires à gauche. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Ça, il faut peut-être le porter quand même au crédit de la gauche. C'est aussi parce que la gauche est beaucoup plus sensible à ces questions et qu'elle prend à bras le corps les questions des violences sexistes et sexuelles. Et qu'honnêtement, la droite est très, très, très en retard sur cette question.
Merci beaucoup, Caroline Forest. Je rappelle que vous êtes journaliste, essayiste et réalisatrice. Votre dernier ouvrage est intitulé « Génération offensée et eux, de la police, de la culture à la police de la pensée ». Merci d'avoir été notre invité ce soir.
Merci à vous.
Allez, dans un instant, la suite de votre MacPol avec le sujet chaud du moment, la réforme des retraites.
Le MacPol, Alexandre de Saint-Aignan.
RTL dimanche soir.
Le MacPol,
Alexandre de Saint-Aignan.
Et on est toujours en compagnie des quatre journalistes du grand jury. Amélie Carouer pour TF1, LCI, Marion Mourgue du Figaro, Marie-Pierre Haddad de RTL.fr et Olivier Bost pour RTL. Vous avez évidemment interrogé Yannick Jadot tout à l'heure sur la réforme des retraites. C'est le sujet brûlant du moment. Pour lui, c'est un passage en force, un processus médiocre, dit-il.
Oui, il dénonce la méthode du gouvernement sur la réforme des retraites, mais plus en général sur sa manière de faire de la politique, où il dénonce aussi une communication qui ferait oublier le reste. Et pour lui, le reste, justement, est tout aussi grave. Donc, il dit, on ne peut pas cautionner ce passage en force et il faut que la réforme des retraites donne lieu à un vrai débat, puisque c'est aussi un vrai débat de société.
Il veut une dimension sociale à la réforme des retraites. Pour lui, c'est le plus important. C'est pas qu'il ne faut pas réformer les retraites, c'est qu'il faut une dimension sociale largement plus importante.
Oui, pour prendre en compte la pénibilité et toutes les questions qui sont liées à l'âge de départ à la retraite.
Mais d'une manière générale, ça lui permet de taper, mais c'est pas nouveau, hein, mais une fois de plus sur la manière de gouverner de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron. Le mot autoritarisme n'est bien sûr pas prononcé, en tout cas, il m'aurait échappé. Mais c'est ça qui est visé derrière, c'est Emmanuel Macron, son mode de gouvernement. Et ça, c'est vraiment le sparadrap d'Emmanuel Macron. Cette notion-là, facile à attaquer pour les autres, d'un président qui déciderait tout seul et passer en force.
Bon, en tout cas, sur la méthode, Olivier Bost, de la réforme des retraites, on devrait en savoir un petit peu plus dans le courant de la semaine prochaine, avec la réunion de la majorité.
Oui, alors c'est le sentiment que ça donne, mais c'est qu'Emmanuel Macron veut aller vite. Il y a, pour aller vite, une formule qui est celle de faire adopter une réforme dans le budget de la Sécurité sociale, c'est donc dans les semaines qui viennent. Ou alors une deuxième solution qui serait d'ouvrir une séquence de dialogue plus large. Emmanuel Macron pousse de toute évidence et depuis plusieurs semaines pour la première option,
la plus rapide.
Il cherche à convaincre parce que sa première ministre n'était pas forcément très allante. On a vu les réactions de François Bayrou notamment et du MoDem qui est largement contre et qui parle d'un coup de force. Et visiblement, de ce qui ressort des dernières discussions pour le coup vraiment interne à l'exécutif, c'est que Emmanuel Macron cherche toujours à convaincre qu'il faut aller vite et il prépare la majorité à cette idée.
Justement, Olivier, vous parliez du MoDem de François Bayrou. On va prendre la direction de Guidel dans le Morbihan. C'est là-bas que le président du MoDem réunit ses troupes depuis 10 ans pour leur université de rentrée avec cette réforme des retraites au cœur, évidemment, de toutes les discussions. Et cette réunion de la majorité annoncée hier. Bonsoir Thomas Després.
Bonsoir.
Vous avez suivi depuis Guidel ces journée de rentrée. Et on vient de l'entendre pour le MoDem, c'est clair, il est urgent d'attendre.
Exactement. Et après son interview la semaine dernière dans Le Parisien où il dénonçait un passage en force d'Emmanuel Macron ce matin, François Bayrou en a remis une couche.
On ne gouverne pas contre le peuple. Les gouvernants portent des réformes, elles sont souvent bien inspirées, mais s'ils n'ont pas le soutien du peuple qui les a élus, ces réformes sont bloquées et ne passent pas. Ils ont besoin d'éléments du choix.
En clair, pour le patron du MoDem, réformer les retraites, oui, mais pas tout de suite. Devant ses troupes, il a donc plaidé pour une vaste consultation, 3 ou 4 mois d'ici la fin de l'année, avant qu'un texte ne soit déposé au Parlement.
Moi je dis, 4 mois suffisent. On n'est pas aux pièces. Réfléchir ensemble, mettre sur la table des faits et des options et des propositions, moi je pense que ça serait bon, pas seulement pour la paix civile, mais pour la réforme elle-même.
concerter encore et toujours. Et à ceux qui disent que la concertation a déjà eu lieu lors du dernier quinquennat, le MoDem a déjà prévu sa parade. Erwan Balanant est député du Finistère.
Justement, s'il y a eu beaucoup de dialogue et si on a encore 72% des Français qui ne sont pas convaincus par cette réforme des retraites, moi je pense que ça veut dire qu'il faut continuer à tenter de persuader les Français que cette réforme des retraites est nécessaire.
Alors on entend donc Thomas la petite musique jouée par le MoDem, mais est-ce que cette réunion prévue dans la semaine, on le rappelle, autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée pour concerter justement, ça ne veut pas dire que François Bayrou a gagné son bras de fer ?
Eh bien non, pas forcément. Alors je ne vous cache pas qu'ici au MoDem, ils se sont plutôt frottés les mains avec cette annonce. Il n'a pas d'autre choix que de renoncer au passage en force, expliquait hier un proche de François Bayrou. Il est coincé, mais en réalité ce n'est pas aussi simple parce qu'Emmanuel Macron, il est convaincu qu'il faut aller vite sur cette réforme. Olivier Bosse vient d'en parler. Si on pense qu'il faut l'unanimité pour bouger, alors on ne fait jamais rien, a dit le président en privé récemment. Mais dans son entourage, on le répète, toutes les options sont sur la table. Aller vite ou prendre du temps. Mais un conseiller le rappelait hier, la seule boussole, c'est la promesse d'Emmanuel Macron, et il a juré que le texte serait voté à l'été 2023.
Le MacPol, Alexandre de Saint-Aignan.
Jour de vote aujourd'hui en Italie pour les élections législatives anticipées après la démission de Mario Draghi cet été pour lui succéder à la présidence du Conseil. La favorite s'appelle Giorgia Meloni, 45 ans, leader du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, crédité autour de 25% des voix. L'extrême droite aux portes du pouvoir en Italie. Mais qu'a-t-elle de commun avec l'extrême droite française ? Marie Mollet, bonsoir.
Bonsoir.
Giorgia Meloni est-elle une Marine Le Pen version italienne ?
Alors on ne peut pas exactement le dire comme ça. En fait, si on regarde d'abord d'un point de vue purement programmatique, elles ont des points communs. D'abord un projet violemment anti-immigration. Giorgia Meloni veut mettre en place ce qu'elle appelle un blocus naval pour refouler les migrants qui arriveraient depuis la Méditerranée, notamment à Lampedusa. Ensuite, elle partage une vision eurosceptique, hein, avec une volonté non pas de sortir de l'Union européenne, mais de la changer de l'intérieur. Pour le reste, en réalité, Marine Le Pen et Giorgia Meloni sont assez éloignées l'une de l'autre. Sur l'économie, Giorgia Meloni, c'est une libérale, à la façon d'un Éric Zemmour, qui veut moins d'État. Écoutez ce qu'elle disait lors de son meeting à Rome jeudi.
L'État ne produit pas de richesse. Ce sont les entreprises et leurs employés qui produisent de la richesse. Ce que l'État doit faire, c'est tout simplement d'arrêter de leur casser les bonbons. Nul ne peut gêner ceux qui veulent faire et avancer.
Alors là, vous l'entendez, on est aux antipodes de l'État stratège que souhaite Marine Le Pen. L'autre sujet qui les distingue, c'est le sociétal et les références à Dieu. Giorgia Meloni est une catholique fervente. Elle prévoit de restreindre l'accès à l'avortement, par exemple, alors que Marine Le Pen n'a l'intention de revenir ni sur l'avortement, ni sur le mariage pour tous, ni sur la PMA. Et ça, c'est une vraie ligne de fracture, rappelle le député RN Sébastien Chenu.
Moi, je les trouve trop conservateurs, je les trouve un peu droitards et trop libéraux économiquement. C'est des gens probablement avec qui il y a des choses à faire en Italie entre eux et Salvini. Nous, on était plus historiquement plus proches de Salvini.
Même s'il faut rappeler que l'Italie, c'est un autre pays, une autre culture qui n'est pas déchristianisée comme la France, et donc que les discours pro-famille peuvent porter davantage.
Oui, si je comprends bien, Marie, Giorgia Meloni, elle est plus proche de Marion Maréchal, par exemple, ou des idées d'Éric Zemmour. Est-ce que, comme Marine Le Pen, elle a tenté de se dédiaboliser ?
Oui, parce que Giorgia Meloni, elle a aussi un passé sulfureux, des années de militantisme dans le parti post-fasciste MSI, qui a été fondé après la guerre par des anciens dignitaires de la dictature de Mussolini, et avec des phrases, des images qui lui collent encore à la peau. Mais pendant cette campagne, elle a mis en sourdine ses positions les plus dures et les plus droitières, notamment pour rassurer les milieux économiques, insistant sur sa volonté de contrôler la dette. Elle a gardé aussi des positions très pro-Ukraine. Elle a dit qu'elle allait s'inscrire dans la continuité de Mario Draghi sur la question des sanctions à la Russie, mais dans le même temps, elle maintient assez subtilement une ambiguïté par rapport à l'héritage fasciste. Pourquoi ? Parce qu'elle sait qu'en Italie, il peut y avoir chez certains une nostalgie d'un homme fort qui faisait régner l'ordre. Et ça, on l'entend très bien quand on discute avec les militants de Meloni. Le fascisme, c'est terminé, mais tout n'est pas à jeter. Donc là, il y a une vraie différence avec Marine Le Pen, qui, elle, veut faire table rase du passé, encombrant du Front National.
Les explications de Marie Mollet pour RTL, il est 18h48. On ouvre à présent l'agenda du MacPol avec les grands événements politiques à venir la semaine prochaine. Bonsoir Marie-Pierre Haddad.
Bonsoir, rebonsoir.
Rebonsoir, ça va beaucoup tourner autour de la réforme des retraites.
Et oui, et ça commence dès demain, lundi, c'est la grande journée d'explication pour l'exécutif. À 10h, c'est le Conseil des ministres. Le gouvernement présente son projet de budget 2023 et aussi celui sur la sécurité sociale. Avec une grande inconnue, est-ce qu'un amendement sur la réforme des retraites retraite va y figurer. Autre dossier présenté, le projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Ensuite, on passe à mardi. Oui. À l'Assemblée nationale, les 151 députés de la NUPES se réunissent en séminaire pour plancher sur l'action de l'opposition dans l'hémicycle. Mais tout cela arrive dans un contexte vraiment très tendu avec l'affaire Quatennens et l'affaire Bayou. Et en milieu de semaine, ça va être le retour de la réforme des retraites. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne réunissent les chefs de la majorité et aussi certains ministres. C'est un peu le moment de s'assurer que tout le monde va parler d'une seule et même voix. Jeudi, le Sénat rend un rapport très attendu sur la pornographie. C'est une délégation qui a travaillé dessus depuis 6 mois sur les dérives de l'industrie pornographique. Ensuite, on arrive à vendredi. C'est un peu l'instant réconciliation de la semaine. Emmanuel Macron rend visite à François Bayrou sur les terres du patron du Modem, à Pau. François Bayrou répète qu'il est contre un passage en force de la réforme des retraites. Et visiblement, le chef de l'État prend sa mise en garde au sérieux. Et ensuite, on arrive samedi avec le retour de Xavier Bertrand. Le président Les Républicains des Hauts-de-France lance son mouvement. C'est un nouveau mouvement baptisé Nous France. Ça se passe à Saint-Quentin. Et on peut déjà dire que ce parti a tout d'une rampe de lancement pour la prochaine présidentielle.
Autant d'événements qu'on va suivre, évidemment, et dont on parlera sans doute dans le prochain MacPol la semaine prochaine. Merci. Merci Marie-Pierre. Merci. On referme ce magazine politique. Dans un instant, on refait la planète avec Alain Bougrain-Dubourg et un nouveau son de la nature, un mystérieux cri d'animal à identifier. Tenez-vous prêts.
RTL. On refait la planète.
On refait la planète.
Alexandre de Saint-Aignan.
On refait la planète, c'est votre émission consacrée à la faune, au climat, à l'écologie, comme chaque dimanche soir, c'est en compagnie d'Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain.
Bonsoir Alexandre.
Alors c'est la tradition, on commence avec une énigme et on commence Alain avec le son mystérieux à découvrir, c'est le bruit d'un animal, hein, c'est ça?
Oui, et puis je vous donne un indice, le capitaine Haddock ne l'apprécie pas du tout. Ah.
Vous êtes sûr que c'est un animal?
Ah, je confirme. On le saura à la fin de l'émission.
Bon, on le saura à la fin de l'émission. En tout cas, on le réécoutera d'ici là. Vous nous donnerez la réponse tout à l'heure.
On refait la planète sur RTL.
Refaire la planète, c'est le titre de notre émission. Chaque dimanche soir sur RTL, c'est aussi un engagement. Comment s'engager pour refaire la planète? C'est à cette question que des jeunes ont voulu répondre en créant en 2019 un grand concours qui est devenu une institution et qu'ils ont baptisé Ma Petite Planète. Alors Alain, en quoi ça consiste ce concours? Un concours qui commence demain.
Hein. Ben, c'est avant tout une occasion de positiver l'action, comme l'explique Clément Debosque, qui est l'un des fondateurs de Ma Petite Planète.
L'idée, c'est de vivre une expérience collective et motivante autour de l'écologie. Donc, ce sont des éditions qui durent à chaque fois 3 semaines, où les participants vont avoir pour objectif de valider un maximum de défis qui ont un impact positif sur la planète, donc une 60aine, et d'éviter les quelques actions, on va dire, néfastes pour l'environnement. Et donc, en validant des points, ils vont faire avancer leur équipe et leur ligue dans le classement général de l'édition. Et c'est un grand challenge national, voire international, autour de l'écologie.
Voilà, un grand challenge autour de l'écologie, challenge positif plus précisément, ça veut dire quoi Alain?
Mais les thématiques ne manquent pas à MPP. Comprenez Ma Petite Planète.
On a 15 thématiques dans le challenge. Et pour prendre peut-être quelques exemples, chez MPP, nous, on incite beaucoup de MPP players, c'est comme ça qu'on les appelle, à, par exemple, faire leur première semaine végétarienne, à se balader en forêt, se reconnecter à la nature, à écouter un podcast sur l'écologie, le vôtre ou un autre, par exemple. Voilà quelques exemples très concrets de ce que les gens peuvent faire pendant les 3 semaines.
Bon, alors, on a entendu ces quelques exemples. Est-ce que ça marche?
Oui, c'est un vrai succès. Alexandre, en 17 éditions, plus de 6000 ambassadeurs ont sensibilisé quelques 115 000 personnes qui sont passées à l'action, ce qui a représenté quand même 1 660 000 défis relevés pour la planète.
La planète sur RTL.
Alors on sait qu'une grande part de nourriture est gaspillée chaque jour, on parle même d'un tiers de nourriture perdue. Le 29 septembre, donc c'est jeudi prochain, c'est la journée internationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Quelles peuvent être les solutions Alain?
J'en connais au moins une, l'application gratuite too good to go, comprendre trop bon pour être jeté, qui a été créé en 2016 et qui propose de mettre en relation les consommateurs et les commerçants comme les boulangers, les restaurants, la grande distribution, afin de récupérer les aliments qui pourraient être jetés.
Ah oui, comment ça marche ?
Bien, l'utilisateur est géolocalisé et se voit proposer des paniers surprises constitués de produits en perdition du jour. Alors, plus de 12 millions de personnes ont déjà récupéré ces paniers alimentaires et 35 000 commerçants ont décidé de jouer le jeu de la lutte anti-gaspi.
Voilà, des paniers surprises, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Ouais. C'est payant quand même ?
Oui, mais à 4 euros, ce qui correspond à seulement un tiers du prix d'origine.
Oui, c'est pas cher.
C'est pas très cher. Et en 7 ans, près de 40 millions de paniers ont ainsi été sauvés de la poubelle. Et quand on sait qu'un repas, c'est 2,5 kg de CO2 en moins, cela représente plus de 100 000 tonnes de CO2 économisé.
Et ben voilà, c'est une belle initiative pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On continue, Alain, avec l'événement à pas manquer.
Oui, je vous propose de faire escale à l'Hôtel de Ville de Lyon le 27 septembre pour une conférence passionnante organisée par l'Obs et One Health sur le thème recherche en santé humaine et animale, même combat. Alors, il s'agit de traquer les virus, de mettre au point les vaccins, d'agir préventivement, notamment en faisant reculer la maltraitance de la nature. Il y aura de nombreux intervenants qui apporteront un éclairage d'actualité. Mmh. C'est à partir de 18h30 et c'est gratuit.
Voilà, et c'est un sujet évidemment d'actualité. C'est donc le 27 septembre à Lyon. Merci.
On refait la planète sur RTL.
Allez, pour conclure, cher Alain, j'en reviens au son mystérieux, évidemment, de la nature que nous avons diffusé en début d'émission. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit ? C'est Tintin, c'est le capitaine Haddock ?
Ouais, on l'écoute ? Bon, c'est pas évident, mais bon, le capitaine Haddock n'appréciait pas du tout. Ben, c'était le lama.
Voilà. Ah, mais oui,
et
évidemment.
Oui. Quand on a identifié 7 cris différents du lama qui vont du bêlement, alors c'est le plus commun pour communiquer avec ses semblables, au short, c'est un cri d'alerte en passant par le clicking en cas d'agression ou le hurling. Uniquement pendant l'accouplement. Voilà, Alexandre, vous savez tout.
Bon, et alors, c'est vrai que le lama, il crache de l'eau comme ça aussi
ah
à
ouais,
la figure.
Oui, il crache pas que de l'eau.
ça vous est déjà arrivé, non ?
Oui, je confirme. Au Pérou.
Ben voilà, on a encore appris plein de choses grâce à vous sur notre planète. Alain Bougrain-Dubourg, on vous retrouve évidemment dimanche prochain pour un nouveau numéro de Refait la planète.
On refait la planète sur RTL.
Restez avec nous sur RTL, le prochain journal, celui de 19h. On va notamment parler de ce nouveau refus d'obtempérer près de Bayonne. La nuit dernière, 5 policiers légèrement blessés. Le chauffard est en fuite. On vous explique tout dans un instant.
RTL, vivre ensemble.
Belle soirée à tous sur RTL, il est 19h.
RTL dimanche soir.
Alexandre de Saint-Aignan.
Et le journal vous est présenté par Nathan Bocard. Bonsoir Nathan.
Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous.
À la une, un nouveau refus d'obtempérer près de Bayonne la nuit dernière.
5 policiers légèrement blessés, un suspect toujours en fuite. On fait le point avec notre correspondant sur place. L'extrême droite aux portes du pouvoir en Italie. 50 millions d'électeurs appelés aux urnes depuis ce matin. Et puis on va goûter un vin un peu particulier puisqu'il est fabriqué sur un terril. On fera les vendanges à la fin de ce journal.
On va refaire le sport avec vous, Isabelle Langer, dans un quart d'heure. De quoi est-ce qu'on va parler ?
Beaucoup d'invités nous parleront des mondiaux de cyclisme et de la médaille d'argent de Christophe Laporte avec Laurent Jalabert et Thomas Vauclair, le manager des Bleus. Nous serons également avec Hugo Boucheron et Mathieu Androdias, sacré cet après-midi champion du monde d'aviron. Et en studio, Henri Lecomte pour revenir sur les adieux et l'immense carrière de Roger Federer.
Un sacré programme.
Un petit coup d'œil sur la météo avec vous, Valérie Quintin. Et c'est triste à dire, mais l'automne est bel et bien arrivé, Valérie.
C'est parti pour un gros changement de climat demain avec une baisse des températures et l'arrivée d'une nouvelle dégradation par le nord-ouest. Alors elle sera assez active avec de grosses pluies sur les régions du nord-ouest en matinée qui vont peu à peu avancer vers l'est et vers le sud au fil de la journée. Dans la foulée, les températures de la moitié nord en tout cas vont franchement pas décoller beaucoup. Alors pas le matin, on aura une fourchette de 4 à 16 degrés entre Aurillac et Nice. Mais l'après-midi, petite fourchette de 14 à 25 degrés avec 15 degrés seulement à Paris, à Metz ou encore à Annecy, 17 à Cherbourg et Clermont-Ferrand, 19 degrés à Lorient, à Biarritz, à Lyon, 20 degrés à Toulouse et comme près de la Méditerranée, il y aura encore du soleil. Il fera 21 degrés à Marseille, 23 degrés. degrés à Nîmes et 25 degrés à Bastia.
Merci beaucoup Valérie Quintin.
RTL dimanche soir,
Alexandre de Saint-Aignan.
5 policiers légèrement blessés à Anglette, près de Bayonne.
Cela s'est passé la nuit dernière, en cause un nouveau refus d'obtempérer. Philippe de Maria, les forces de l'ordre tentaient en fait d'arrêter un rodéo urbain.
Oui, les policiers arrivent au pied d'une résidence cette nuit. Un véhicule s'enfuit, mais ils parviennent à en coincer un autre. Pas longtemps, parce qu'en plein milieu du contrôle, alors que les policiers vont se rendre compte que le véhicule est volé, le conducteur enclenche la marche arrière. 3 fonctionnaires qui l'entourent et qui tentent de le stopper sont blessés. Le chauffard fonce sur le dernier policier qui tire à 2 reprises. Il continue malgré tout sa course pour emboutir un autre véhicule de patrouille qui arrivait en renfort. La réaction d'Éric Maroc du syndicat Alliance.
Les policiers en ont marre. Les policiers risquent leur vie tous les jours, chaque fois qu'ils prennent leur service. Mais aujourd'hui, lors des contrôles routiers, sous l'impulsion de notre ministre intérieur, on a une recrudescence des refus d'obtempérer. Il faut que ça cesse très, très, très rapidement. Donc on est vraiment sur des trafiquants, sur des délinquants, sur des fous dangereux qui ont décidé de péter dans mes collègues pour attenter à leur vie et se soustraire à un contrôle de police.
L'homme est ce soir toujours en fuite. Son véhicule a été retrouvé. Il avait bien été volé récemment et le parquet de Bayonne a saisi la police judiciaire.
Les précisions de Philippe de Maria, correspondant RTL dans le sud-ouest.
À Nantes, 3 hommes accusés d'avoir frappé et violé une femme. Les faits se sont produits tôt ce matin sur l'île de Nantes. Poursuivi par les policiers, l'un d'entre eux a également frappé un agent au visage avec une pierre. Les 3 suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Des affrontements cet après-midi devant l'ambassade d'Iran à Paris. Des manifestants se sont opposés aux forces de l'ordre. Ils se réunissaient en soutien aux femmes iraniennes. Le calme semble désormais revenu à l'heure actuelle à l'ambassade, selon notre reporter.
La capitale où plusieurs centaines de personnes manifestaient également pour le climat cet après-midi.
Au cri de « fin du monde, fin du mois », même système, même combat. Ils s'étaient réunis au pied du Panthéon pour marcher jusqu'à Bercy, où se trouve le ministère de l'économie. Un rassemblement à l'appel du mouvement « For Climate » pour réclamer des actions pour le climat et la justice sociale, avec une revendication très précise, réduire la publicité en Ile-de-France. Explication de Laurélia, 22 ans et militante pour le climat.
La pub, c'est une sorte de symptôme, c'est-à-dire qu'en réalité, le problème, c'est plus généralement comment aujourd'hui on a un système de production qui est organisé pour nous obliger en fait à consommer en fait ce qui permet les profits de quelques-uns. On l'a vu cet été en fait quand il y a des PDG comme Pouyanné, mais aussi comme Bezos, etc., qui volent en jet, qui continuent de prendre des yachts, etc., et que Macron est en train de nous parler de fin de l'abondance, qu'on est en train de dire que nous, dans les étudiants, on va peut-être avoir les facs fermés à cause du manque de ressources, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dichotomie entre en fait ce que nous on consomme, comment nous on vit. En fait, comment vivent ceux qui sont les plus gros responsables, ceux qui en fait pillent le plus les richesses, etc. Et nous, c'est contre ça qu'on veut se battre aussi, quoi. La mobilisation, on voit aujourd'hui que les manifestations, elles sont plus petites, etc. Nous, on pense que voilà, il faudrait au contraire qu'il y ait des milliers de jeunes qui sortent dans la rue, mais aussi des travailleurs en fait qui sont aujourd'hui au cœur en fait de la possibilité de changer le système. Et donc, c'est avec eux aussi qu'on veut se battre.
Cette manifestante pour le climat au micro RTL de Léonard Cassette.
Yannick Jadot attaque frontalement Jean-Luc Mélenchon. Le député européen écologiste était l'invité du grand jury RTL ce midi, avec dans son viseur la gestion par LFI de l'affaire Adrien Quatennens, le député insoumis qui a reconnu des violences conjugales. Certains, je cite, ont plutôt joué la solidarité masculine que la protection des femmes, a estimé M. Jadot. Il accuse Jean-Luc Mélenchon d'avoir commis une erreur politique en soutenant Quatennens. Dans un premier temps, le leader insoumis de son côté a dit accepter les critiques.
Un mois après la cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Essonne, les hackers ont finalement mis leur menace à exécution.
L'établissement hospitalier refusait de leur payer une rançon $1 million. Ils ont donc diffusé les données volées. Elles concerneraient les patients, mais aussi le personnel et les partenaires de l'hôpital. Parmi ces fichiers, des données de santé, administratives, mais aussi des numéros de sécurité sociale.
Allez, dans un instant, direction l'Italie. Jour d'élection historique sur place. L'extrême droite est aux portes du pouvoir.
RTL dimanche soir.
18h-19h15, RTL dimanche soir.
Alexandre de Saint-Aignan.
Et votre journal qui se poursuit, le journal de 19h présenté par Nathan Bocard. 50 millions d'Italiens appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur nouveau Parlement. Et sauf surprise, l'extrême droite en sortira en tête.
Fratelli d'Italia, parti post-fasciste, est crédité d'un quart des intentions de vote. Sa chef Giorgia Meloni est donc ultra favorite pour mener un gouvernement de coalition qui rassemblerait plusieurs partis de la droite à l'extrême droite. Notre correspondant à Rome, Olivier Bonnel, s'est rendu dans un café juste derrière la Chambre des députés et il a recueilli l'impression du patron du café Massimo.
Personalmente mi auguro che il colore non sia quello di cui si parla, ma questa è un'idea personale. Poi
j'espère que la couleur de l'Assemblée ne sera pas celle dont tout le monde parle, mais c'est mon opinion personnelle. Qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas dire. On en a tellement vu ces dernières années en Italie que plus rien ne nous fait peur. On attend de nouveaux députés d'ici quelques semaines et cette campagne a vraiment été spéciale, très courte, elle s'est déroulée pendant l'été et on a peu parlé des programmes. Tout s'est focalisé sur l'agressivité envers les autres.
L'agressione sugli altri, mai un programma che proponesse, un partito che proponesse qualcosa.
On n'a pas vraiment vu de parti centré sur les idées qui intéressent le plus. Comme d'habitude, c'est une campagne électorale à l'italienne, réduite aux attaques personnelles plutôt qu'aux idées de fond.
Un propos recueilli par Olivier Bonnel, correspondant d'RTL en Italie. Et puis en Suisse, le temps de travail des femmes allongé d'un an, résultat d'un référendum remporté d'une très courte marge par le oui. 50,6% des Suisses se sont prononcés en faveur d'une retraite à 65 ans pour les femmes. Jusqu'à présent, elles travaillaient un an de moins que les hommes.
Elles sont en avance après un été ensoleillé. Je parle des vendanges qui ont lieu un peu partout en France. Et figurez-vous même aussi tout au nord.
Absolument, Alexandre, on file dans le Pas-de-Calais sur des vignes un peu particulières puisqu'elles poussent sur un terril. Un beau clin d'œil à la tradition minière de la région. Alors pour RTL, Antoine de Carne est allé faire les vendanges du Charbonnet.
Niché sur ce terril à 130 mètres de haut, entre les allées couleur charbon, 30 volontaires sont en pleine vendange et devant l'un des 3000 pieds de vigne, Jade coupe les grappes de raisin avec son sécateur.
Faut pas avoir le vertige, mais on a une vue incroyable. On a les autres terrils en face, on est sur du charbon en fait. Donc c'est pour ça que si c'est du chardonnay, mais c'est du charbonnet.
La particularité, c'est cette pente.
Qui est très fatigante.
Car la pente est de 80% exposée plein sud. Ce sol schisteux et charbonneux est exploité depuis 10 ans par Olivier Pussec, l'unique vignoble du Pas-de-Calais.
On s'est installé ici parce qu'on a un sol qui est peu vigoureux, qui est un sol noir, qui restitue la chaleur. On arrive à faire mûrir nos raisins. Les baies sont petites, les grappes sont petites. Et donc, on a des jus qui sont concentrés, denses, très aromatiques.
Ce qui apporte un goût particulier à ce charbonneux. Charbonnet vin blanc à 13 degrés qui fait la fierté des habitants.
On se dit mettre des vignes sur un terril, on va avoir quoi, mais en fin de compte, c'est génial.
Ce sont nos montagnes noires qui ont une belle reconversion.
En plus, la cuvée est exceptionnelle cette année puisqu'il y aura plus de 1000 bouteilles de charbonnet en vente, un record sur les terrils.
Le reportage d'Antoine de Carne, correspondant d'RTL dans le Nord.
Allez, on passe à notre série 7 jours, 7 reportages.
RTL.
7 jours, 7 reportages.
Et cette semaine, on s'intéresse à la Coupe du Monde de football au Qatar, plus que deux mois avant le début de la compétition. Et Nicolas Georgerot, aujourd'hui, vous nous expliquez comment acheter des places pour les matchs. Et attention, ce n'est pas si simple.
Oui, il y a une ultime phase de vente qui va débuter dans 48 heures sur le principe du premier arrivé, premier servi. La FIFA n'a en revanche pas livré de contours ni de détails précis concernant ces billets. Combien? Quelles catégories disponibles? Quels tarifs? 2,5 millions de places ont déjà été vendues. Qatar, États-Unis, Angleterre, Arabie Saoudite et Mexique, voilà le top 5 des nations les plus demandeuses. Les tickets les moins onéreux étaient à 61 €, 30% moins cher qu'en Russie, mais la Fédération internationale a réduit le volume global de ces places pour augmenter celui des billets les plus élevés. Résultat, les revenus seront toujours confortables et en hausse pour la FIFA. Billets en poche pour les supporters, il reste deux étapes cruciales à franchir. Trouver un hébergement à Doha et remplir toutes les formalités administratives pour obtenir la carte AYA, une sorte de passeport bis qui identifie les supporters et qui permettra de prendre les transports en commun gratuitement.
Nicolas Georgerot du service sport de RTL. Et puis ce soir, l'équipe de France dispute son dernier match avant le mondial, rencontre de Ligue des Nations face au Danemark, à suivre bien sûr dans RTL Foot à partir de 20h.
Le cyclisme tient un nouveau champion. Nathan Remco Evenepoel remporte le titre mondial aujourd'hui en Australie.
Le Belge de 22 ans s'impose au terme d'un raid solitaire de plus de 30 km. La deuxième place revient à un Français, Christophe Laporte, qui passe la ligne d'arrivée précisément 2 minutes et 21 secondes plus tard. La première place en revanche, elle est bien tricolore aux mondiaux d'Aviron. Hugo Boucheron et Mathieu Androlias, déjà champions olympiques, ont décroché l'or cet après-midi en deux de couple.
C'était le journal de...